y a une vie après normale.
Plaisir d'être aujourd'hui en votre compagnie pour la radio de l'ENS de Lyon, Transistor.
Plaisir partagé.
Vous entrez en 1979, vous qui n'aimez pas les dates, après une classe préparatoire donc au lycée Henri IV à l'ENS Saint-Cloud, où vous étudiez la littérature. Pourquoi ce choix de la littérature ?
Vous connaissez la réponse que Beckett avait fait au pourquoi écrivez-vous ? Il a répondu bon qu'à ça. Voilà. Donc, non, c'est une boutade. J'avais une conception romantique de la chose, c'est-à-dire que je me disais que faire des études dans une discipline qui était celle à laquelle me portait mon inclination naturelle devait probablement épargner des tourments, voilà, scolaires. Et comme j'ai toujours lu beaucoup, je me suis dit Enfin, j'avais la faiblesse de penser que c'était la continuation d'une passion, avant de me rendre compte que c'était un peu différent.
Je me permets peut-être une petite indiscrétion en me penchant quelques instants sur votre entourage familial, qui peut peut-être expliquer aussi votre choix de la littérature, ou peut-être pas d'ailleurs. Votre père, Simon Nora, était inspecteur général des finances, proche, on le disait, vous le confirmerez ou pas, proche de Pierre Mendès France en son temps, et qui est devenu directeur au début des années 70 du cabinet de Jacques Chaban-Delmas à Matignon. Votre oncle, lui, qui n'est pas moins illustre, est Pierre Nora, l'historien que nous connaissons tous. Ce qui est intéressant et ce qui m'a interpellé en regardant votre parcours donc dans le monde de l'édition, c'est que vous n'avez fait comme aucun de vos parents. Vous n'avez ni fait le choix de la haute fonction publique, ni celui d'une carrière universitaire. Alors pourquoi ne pas avoir choisi l'une de ces deux alternatives ?
Oui, alors en effet, un, je suis un pur produit de ce que Bourdieu appelait la reproduction, c'est-à-dire clairement il y avait une tradition familiale et un passage de relais culturel qui m'a baigné. Je vous ai dit que j'ai toujours lu, c'est parce que j'ai eu la chance d'être entouré de livres. Alors certains réagissent en s'évadant complètement de leur prédestination ou prédisposition familiale. Moi, ça a été assez naturel. Après, pourquoi aucune des deux carrières ? C'est plus compliqué que ça. Mon père a en effet été dans la haute fonction publique et aurait souhaité d'ailleurs que je passe l'ENA. Mon oncle était déjà sur deux pieds, qui était un pied dans l'édition, mon oncle Pierre, Nora, un pied dans l'édition, puisqu'il est éditeur chez Gallimard depuis de longues années et qu'il a probablement amené près de 1000 titres dans les collections de Gallimard, et puis il avait un autre pied sur lequel il enseignait. Au fond, j'ai pris un des deux pieds de mon oncle. Voilà. Puis il y a eu un deuxième oncle qui m'a beaucoup influencé aussi, qui était François Furet, voilà, qui était historien. Je me donne pas le sentiment d'être très en rupture, honnêtement. C'est plutôt dans la continuité que dans la rupture. C'est dans la continuité et dans la dénivellation, en tout cas à mes yeux.
Donc d'après ce que j'ai lu, vous n'avez pas passé l'agrégation. Pourquoi n'avoir pas justement passé cette épreuve littéraire qui est incontournable ?
Je l'ai passé, je l'ai tenté, mais je l'ai raté. Donc non, je n'y ai pas tourné le dos. C'est l'agrégation qui m'a tourné le dos. Voilà, c'est-à-dire, je l'ai même passé à plusieurs reprises, enfin tenté et présenté à plusieurs reprises. Je n'y ai pas été admissible la première fois, j'y ai été admissible la deuxième avec un grand oral qui a été très contesté. Je ne vais pas revenir sur sur la polémique de l'époque, mais enfin, en gros, l'issue de ce grand oral, c'est que j'y ai eu une très mauvaise note et qu'il y a eu une contestation interne au jury qui fait que il m'a été donné une année de plus à l'école. Année de plus où je me suis perdu, c'est-à-dire que là j'étais hors sol. Au lieu de faire, c'était des copies de 6 heures à l'époque, au lieu de faire une copie en 6 heures, je faisais des plans de 40 pages, de 50 pages. Enfin bon, voilà, j'étais parti ailleurs là. Donc ça a été une année, comment dire, intellectuellement productive, mais pas tout à fait pragmatiquement tendue vers le concours.
Donc, vous dites vous perdre dans les nimbes ensuite. Alors, justement, revenons peut-être là-dessus, puisqu'il y a une vie après normale. La vôtre, en tout cas, les traces de vous après cette déperdition, on peut en retrouver en 1988, lorsque vous rentrez au département de littérature générale de Hachette, en tant que secrétaire d'édition, et puis vous deviendrez plus tard éditeur assistant et continuerez à gravir les échelons chez Hachette et après dans d'autres maisons. Comment y êtes-vous entré justement? Comment êtes-vous passé du jeune agrégatif qui refuse quelque part le format imposé et contraignant de l'agrégation à quelqu'un qui se dit je veux aller dans ce monde-là? Est-ce encore votre proximité
Alors,
familiale
en fait,
ou...
c'est un peu plus court que ça. C'est-à-dire, 80-85, je suis donc à l'école. Hein, c'est-à-dire, c'était en principe 4 ans et j'ai cette cinquième année, d'accord? Et je rentre dans l'édition dès 86. C'est en 88 que je rentrerai chez Calman Levy. Mais entre 86 et 88, je suis jeune éditeur assistant, ce qu'on appelait éditeur assistant chez Hachette Littérature, qui était en effet un département d'Hachette. Non, là, c'est un ami qui m'a permis de rentrer, qui s'appelait Jean-Paul Enthoven, qui dirigeait Hachette Littérature à l'époque, et qui était en train d'en partir, et qui m'a présenté à quelqu'un qui prenait le relais, qui s'appelait François Sibiel, qui travaille aujourd'hui chez Gallimard, et qui m'a proposé ou qui m'a accepté pour un job qu'on appelait secrétaire d'édition. Alors le secrétariat d'édition, c'est le lumpenprolétariat, si j'ose dire, de l'édition, c'est le premier échelon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font la préparation et la correction de copies. Ce sont des choses très méticuleuses et précises. Quand on dit préparer une copie, c'est pas juste corriger des fautes d'orthographe, c'est tout un code typographique à apprendre. C'est un métier très technique que font aujourd'hui des préparateurs et des correcteurs qui sont souvent extérieurs aux maisons d'édition. À l'époque, donc, il y avait des postes de préparation de copies dans les maisons. Et donc, c'est voilà, je crois que mon premier salaire devait être autour de, dans mon souvenir, autour de 4 000 francs de l'époque. Hein, 4 000 francs, ça représente, oui, quelque chose autour de 300 euros, quelque chose comme ça, hein, je pense. Non, 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 je dis bêtise. Non, c'est plutôt autour de 600 euros. Voilà. Donc, c'était les postes d'entrée, si j'ose dire, dans l'édition. Et là, très vite, j'ai compris que si on devenait trop bon technicien, on était trop utile comme technicien et que donc on risquait en effet de rester, ce qui n'est pas, loin s'en faut, un poste mineur. Hein, je veux dire, les préparateurs et les correcteurs de copies, pour ceux qui aiment ça, c'est des vies absolument passionnantes, hein, puisqu'on lit énormément de textes. Et pour certains d'entre eux, ce sont des orfèvres. C'est-à-dire qu'ils ont une telle maîtrise de ce métier que ce sont ceux en réalité qui sont le plus appréciés par les auteurs. Ce sont ceux qui. Ils cumulent en France, quand ils sont bons, la préparation de copies, puisque les anglo-saxons appellent le fact-checking, c'est-à-dire le fait de vérifier les faits, les noms, la précision, non seulement de l'onomastique, des noms de personnes, mais aussi des chronologies et des faits. Donc c'est quand même, dans la non-fiction, si vous voulez, c'est un job considérable, que de moins en moins d'éditeurs font bien et que les bons préparateurs et enfin, correcteurs, surtout de copies, font admirablement. De sorte que ça, je l'ai pratiqué un peu, et puis assez rapidement, François Sibiel, à l'époque, a probablement pris la mesure de ce que je pouvais faire d'autre, et donc m'a fait évoluer vers un poste qu'on appelle éditeur assistant, qui consistait à travailler la copie à fond de cuve, en travaillant vraiment en éditant des textes, en travaillant sur la copie des auteurs. Et là, alors, ça dépend beaucoup des gens avec lesquels vous travaillez. Certains ont à cœur de vous laisser à fond de mine et de s'approprier le travail que vous faites. Ça peut durer des années comme ça, où on travaille pour le compte de quelqu'un, hein. Voilà, le contexte dans lequel je parle fait qu'il serait obscène de comparer au travail d'assistant parlementaire. Mais si vous voulez, voilà, c'est un travail d'assistant éditorial qui peut être un vrai travail ou au moins un vrai travail. Et en l'espèce, voilà, il se trouve que j'avais la chance de travailler avec une femme, Françoise Sibiel, qui a eu à cœur, au contraire, de très très vite de me faire rencontrer les auteurs. Bon, elle a probablement estimé que j'avais une psychologie ou un toucher de balle suffisant pour que je puisse très jeune être mis en contact directement avec les créateurs. Et voilà, alors là aussi, ce sont des trajectoires, ça dépend vraiment beaucoup des personnalités, des gens avec lesquels vous travaillez, mais c'est vrai de tous les métiers, hein. Il y a des gens qui rendent à César ce qui est à César, il y en a d'autres qui ont tendance à s'approprier longtemps ce que César fait à leur place. Et en l'espèce, moi j'ai eu beaucoup de chance, comme j'en ai eu d'ailleurs tout au long, hein. En réalité, la chance joue un grand rôle aussi. En plus de la chance de départ, si j'ose dire, de cette prédisposition familiale d'une part, et des réseaux qui, quoi qu'on en ait, quoi qu'on en dise, jouent un rôle évident dans cette affaire, parce que il est quand même plus facile de pénétrer, de percer le blindage de l'édition, qui est un milieu très fermé, quand on y connaît déjà des personnes, que quand on n'y connaît personne. Bon. C'était encore plus vrai que ça l'est un tout petit peu moins aujourd'hui, où de toute façon le métier, mais on sera peut-être amené à y revenir, est devenu tellement rude qu'il y a peu de postes, mais que ces postes-là, j'ai l'impression, s'arrachent un peu plus au mérite que par le passé. Voilà. Donc voilà, 2 ans, deux ans donc chez Hachette Littérature, avant de devenir alors chez Calman Levy éditeur. Alors là, c'était en 1988, et c'était un monsieur qui s'appelait Jean-Étienne Cohen-Séat qui dirigeait Calman Levy. Calman Levy était une maison indépendante à l'époque, vieille maison créée en 1836, très belle maison, très beau catalogue, très beau fonds, mais que lui venait de reprendre. Et c'était une maison totalement archaïque dans ses modes de fonctionnement, passionnante, dans un lieu historique qui était le passage Cendrier, c'est rue Scribe, enfin exactement la vraie adresse était 3 rue Aubert, comme ça, c'est dans le quartier Opéra. Très bel immeuble, très vieille architecture Eiffel, comme ça, fer et verre et bois. Un magnifique comptoir, des escaliers à évolution, menant vers des déambulatoires, comme ça, comme une sorte de panopticon. C'est vraiment un lieu somptueux. Et là, j'avais demandé à Jean-Étienne Cohen-Séat de m'accepter comme éditeur. C'est une démarche que j'avais faite volontaire, et lui a eu un réflexe très intéressant. Il m'a dit, écoutez, il n'y a pas d'université pour l'édition, mais je suis en train de retaper cette boîte. Donc vous allez y venir, et puis vous allez me prouver de quoi vous êtes capable. Voilà. Et à vous, il a en quelque sorte inversé la charge de la preuve, quoi. Il m'a dit, vous pouvez tout faire, vous pouvez toucher à tout. Et vous existerez à la mesure de ce que vous apportez. Alors, comme j'avais eu 2 ans de formation avant chez Hachette Littérature, il ne m'a pas appliqué le système dans toute sa rigueur. Il l'a fait avec d'autres confrères et consoeurs à l'époque, en prenant vraiment des gens qui n'avaient pas fait d'édition du tout, et en leur disant, OK, voyons de quoi vous êtes capable. Mais ceux-là, il ne les salariait pas, il leur donnait un pourcentage sur les livres qu'ils apportaient à la maison. Moi, il m'avait proposé un salaire à l'époque, et je me souviens qu'il m'avait tenu un discours assez churchillien, comme ça, là, sur le sang et les larmes. Il m'avait dit, bon, bah, écoutez, vous aviez une assistante, vous n'en aurez pas, vous aviez des tickets restaurants, vous n'en aurez pas, et vous aviez un salaire de temps, et ben, je vous prends un peu en dessous. Et puis maintenant, quartier libre, prouvez-moi de quoi vous êtes capable. Ce qui est pas mal. Et donc je suis resté là de 88 à 91, aux côtés de Jean-Étienne Cohen-Séat, et avec beaucoup de changements à l'époque, là aussi, qui font que c'est là où, si vous voulez, l'histoire vous choisit autant que vous la formez, que vous la forgez, qu'elle vous choisit. Il se trouve que quand j'ai débarqué, Jean-Étienne tenait le CNCA, donc tenait la maison, mais il y avait deux grands anciens qui étaient Philippe Rossignol, ancien patron de Noël et ancien patron de Hachette Livre, qui travaille à ses côtés comme une sorte de conseiller aulique, si vous voulez, et puis quelqu'un qui s'appelait Alain Houlman, qui était le descendant de la famille Kalman-Lévy, et qui, lui, avait un certain âge et remplissait un rôle de direction littéraire de la maison. Et puis dans les deux ans qui ont suivi mon arrivée, décès d'Alain Houlman, un peu plus tard, décès de Philippe Rossignol, de sorte que Coenseat s'est retrouvé le plus ancien dans le grade le plus élevé, mais un petit peu privé de ses conseillers les plus seniors, si vous voulez. Et là aussi, la nature a horreur du vide, j'ai été aspiré en quelque sorte, c'est-à-dire que j'étais là depuis quelque temps, ça se passait bien, on s'entendait, je crois, très bien, il m'avait donné ma chance, en contrepartie, je travaillais beaucoup et je crois en apportant des satisfactions. Et là, il m'a vraiment donné beaucoup d'initiatives, beaucoup d'air, beaucoup de choses à faire. Et donc j'ai appris énormément, comme on peut apprendre dans une petite maison où on a accès à tout de manière transversale et où on n'est pas complètement limité à un compartiment de jeu façon nageuse est-allemande dans son corridor, quoi, si vous voulez. Voilà, donc je lui dois évidemment énormément. Et puis d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on sera amené à parler de la suite, mais à quasiment à chaque étape, Coenseat m'a aidé. Voilà.
Avant de poursuivre justement sur votre parcours, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de ce qu'est le métier d'éditeur ? Alors vous l'avez déjà fait, mais peut-être des journées. Alors je ne sais pas si on peut parler de journées type, mais quelles sont les grandes activités qui reviennent très souvent et qui sont essentielles et constitutives de l'activité d'éditeur ?
D'accord. Alors, bon, c'est évidemment très difficile de revenir à des fondamentaux sur un métier qui vous est devenu si familier qu'on le pratique sans se poser les questions que peuvent se poser des néophytes à son propos. En gros, d'abord, je crois qu'il faut distinguer, quand on dit éditeur, le français regroupe sous le même terme ce que les Américains ont deux mots pour qualifier. En Amérique, on parle du publisher, qui est l'éditeur au sens patron d'une maison d'édition, et puis de editor pour dire l'éditeur. Donc, j'imagine que votre question, c'est qu'est-ce qu'un éditeur personne physique fait, pas un éditeur au sens patron d'une maison. Bon, alors, il y a plusieurs choses, et ça dépend aussi des personnes. La caractéristique de la France, c'est que c'est à vous d'être proactif pour aller chercher les projets. Le public se représente le métier d'éditeur comme un métier au fond réactif, comme si nous étions derrière le bureau de poste et que on triait les manuscrits qui nous étaient arrivés comme une sorte de comment dire de type qui mettrait des trains sur des voies de garage et d'autres sur des voies de départ en disant ça mérite d'être publié, ça mérite de ne pas l'être. Une toute petite partie du métier consiste en effet à recevoir des manuscrits qui nous sont spontanément envoyés. Mais c'est très 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 limité par rapport à la partie proactive qui nous fait aller chercher des textes que nous voulons publier. Et donc, là où des éditeurs, par exemple, dans d'autres pays où existent majoritairement des agents littéraires, peuvent en effet n'être que des agriculteurs, si j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui choisissent des projets sur le fondement du synopsis qui leur est proposé, négocient le livre à venir et les termes du livre à venir, et puis font en sorte ensuite que ce texte ressemble à l'idée qu'ils s'en étaient faites quand ils l'ont signé quelques années plus tôt. Ce que j'appelle un métier d'agriculteur, si vous voulez. Hein. Donc une grande attention à quelque chose qui pousse, que vous avez commencé par arroser et qui pousse. L'éditeur en France, par rapport à ceci, qui est vraiment le métier à l'américaine, qui est l'agriculteur, le français, il doit être chasseur et agriculteur. C'est-à-dire que vous êtes supposé chasser tous les jours. Chasser, ça veut dire vous poser la question de savoir quel sujet intéresse, quel type de livre vous intéresse, en tout cas vous, le cas échéant, et intéresse vos contemporains, quels auteurs, quel sujet lu dans la presse, étant dans l'air du temps, qu'est-ce que vous anticipez des évolutions de la société et Vous essayez de prendre rendez-vous avec le livre qu'on serait susceptible d'attendre dans un an, dans 2 ans. Et ce livre, il vous appartient d'essayer de le faire naître. Alors, idéalement, c'est ça. C'est-à-dire, idéalement, toute journée que vous avez passée sans aller chercher quelque chose est une journée passive et une journée perdue. Idéalement, un éditeur complet, c'est quelqu'un qui a des idées de livres, ayant les idées, se pose la question de savoir quel est le bon auteur pour mettre en œuvre cette idée. Et puis, le cas échéant, si ça lui appartient aussi, lit des textes qui lui sont proposés et peut en effet arbitrer sur qu'est-ce qui est publiable, pas publiable, qu'est-ce qui doit l'être, ne doit pas l'être, etc. Alors, les qualités, là aussi, il y a tellement de profils d'éditeurs différents que c'est assez difficile de dresser un portrait type, mais il vaut mieux aimer lire, c'est préférable. Encore que là aussi, c'était cette boutade de Stendhal qui est merveilleuse, qui dit « Le malheur en prison, c'est de ne pas pouvoir fermer sa porte. Le malheur dans l'édition, c'est de ne pas pouvoir lire pour soi. » C'est-à-dire qu'on est très vite à ce point submergé de lecture comme archi-lecteur professionnel qu'on passe son temps à être frustré de lectures gourmandes que plus aucun d'entre nous ne peut s'offrir. Il y a peu de métiers où on lit aussi peu pour soi que l'édition. Donc ça, c'est une des découvertes par rapport à cette vision romantique dont je vous parlais au début de notre conversation, c'est-à-dire, au fond, quoi de mieux que d'être rémunéré pour pratiquer comme un métier ce qu'on pratique comme un loisir et une passion quand on n'est pas rémunéré. Bon, bref, par rapport à cette vision merveilleuse de la pipe au coin du feu à lire des livres, bon, c'est pas tout à fait ça, évidemment. Et on est paradoxalement assez frustré de lecture pour soi dans ce métier, et on a parfois des moments de saturation absolue de lecture. Mais donc il vaut mieux aimer ça, parce que une des caractéristiques de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je m'explique. Dans beaucoup de métiers, au fond, vous avez une césure claire. Vous sortez du bureau, vos week-ends sont des week-ends, vos vacances sont des vacances. Même si vous avez à éplucher un dossier de temps à autre, en gros, il y a un temps de loisir qui est complètement séparé. Il y a un temps de vie familiale, il y a un temps de vie amicale, etc. L'éditeur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, la présence au bureau, c'est le tout venant quotidien et c'est la condition sine qua non du reste. Mais le cœur du métier ne peut pas se pratiquer au bureau. Au bureau, ce sont des réunions, des rencontres. Enfin, on pourra revenir là-dessus si vous voulez. La vraie lecture professionnelle, elle ne peut se faire qu'en dehors du bureau. Donc, c'est la nuit, c'est le week-end et ce sont les vacances. Et par ailleurs, très vite, il n'y a plus de vie personnelle qu'indexée sur votre vie professionnelle, puisque il n'y a pas de... Enfin, la frontière est très poreuse entre les deux, si vous voulez. Vous faites de certains de vos auteurs vos amis et certains de vos amis deviennent des auteurs. Et donc il y a c'est un métier envahissant de ce point de vue. C'est un métier, si vous voulez, et c'est là où il faut s'y sentir heureux, parce que, grosso modo, c'est une façon d'être au monde, plus qu'une activité. Vous respirez éditeur, vous dormez éditeur, vous prenez vos vacances comme éditeur, et donc vous bouffez du papier tout le temps, et quand vous bouffez pas de papier, ça gamberge sur quoi, comment, et ça devient assez rapidement presque une sorte de seconde nature, qui fait qu'il y a un moment même où il faut se garder de cette métamorphose lente qui fait de vous une sorte d'homme papier, parce que ça finit par anesthésier les capteurs de sensibilité, c'est-à-dire vous finissez par n'avoir d'appréhension du réel que comme virtuosité de mise en livre, ce qui n'est pas la meilleure des façons. Enfin, j'imagine qu'un cinéaste voit le monde aussi à travers un objectif et passe son temps à faire des cadrages. Là, vous passez votre temps à cadrer la réalité en fonction de sa capacité à faire livre. Alors, ça, c'est en tout cas... Alors là, on est moins dans la qualité que dans la pathologie ou l'obsession, mais enfin... Tout ça se tient. Donc oui, il faut avoir la passion de la lecture, ça c'est évident, puisqu'encore une fois, elle est totalement envahissante. 2, c'est un métier sans frontières, vie personnelle, vie professionnelle. 3, c'est un métier à faible rémunération, et donc il faut vraiment y avoir une passion, enfin, y avoir un plaisir et un enthousiasme tel que ça compense le manque à gagner de ce que pourrait être l'investissement du même temps de travail dans une discipline ou dans une profession plus rémunératrice. C'est pas, voilà, j'ai beaucoup de jeunes éditeurs au fil de ma carrière, comme ça, ou ma carrière, c'est beaucoup dire, enfin, au fil de mon expérience dans le métier, qui m'ont dit, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, avec le temps que j'y passe, c'est grotesque, je peux à peine me loger à Paris, là. C'est comme ça. C'est-à-dire ça, il faut le savoir. Et si la jubilation qualitative d'être au contact de créateurs ne compense pas le manque à gagner qualitatif que pourrait avoir telle ou telle jeune personne en dépensant la même énergie dans des univers plus rentables, du commerce, du business ou autre, si on ressent cette frustration-là, il faut sortir vite parce que c'est une frustration qui ne cessera de se creuser, si vous voulez. Voilà. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, après, ce sont des postes qui évoluent, ce sont des carrières qui évoluent, et je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que, comme patron de maison, je gagne mal ma vie. Mais je veux dire, pendant très longtemps, un éditeur travaille beaucoup, et il ne faut pas qu'il attende un retour sur investissement immédiat. C'est pas comme ça que ça se passe. Et le retour sur investissement doit être quand même le plaisir de côtoyer des créateurs. Parce que ça, j'y arrive tardivement, mais c'est évidemment la clé de tout. C'est-à-dire, on a ou on n'a pas la passion du service des auteurs, quoi. Et ça aussi, c'est une chose difficile pour des jeunes gens, parfois un peu auto-centrés ou qui pensent avoir un jugement de surplomb par rapport à ce qu'ils produisent ou ce qu'ils publient. Nous sommes au service des auteurs. Voilà. C'est-à-dire, les auteurs c'est le cœur du réacteur et ce sont eux qui nous font vivre et pas l'inverse. Un créateur trouvera toujours un éditeur qui n'a pas de créateur ne mangera pas. Bon, donc voilà, ça il faut jamais l'oublier, c'est un métier de service, on est au service de créateurs et je dirais même de créateurs qui souvent vous amènent quand leurs déséquilibres psychologiques ou personnels sont indexés sur leur talent, et quand le talent est tel qu'il fait passer tout le reste, vous avez affaire à un métier qui, à mains égards, ressemble à ce que à des métiers de thérapie ou de psychanalyse. C'est-à-dire, c'est là où c'est les qualités, si vous voulez, ce sont des qualités à la fois de géomètre et de saltimbanque. Il faut que vous puissiez à la fois parler le langage d'un patient sur un divan à un auteur un petit peu fragile, et à la fois parler le langage de la gestion à un actionnaire impatient. Bon, donc les chiffres et les lettres. Et ça aussi, c'est assez rare qu'on puisse avoir à la fois l'ultra-sensibilité littéraire pour parler une langue commune avec des gens qui ont ce moyen d'expression de l'écrit et à la fois un sens pratique et un sens commun qui permet de travailler dans une entreprise, d'avoir des rapports à peu près normaux avec des collègues et d'avoir tout de même une petite idée de ce qu'est l'économie d'un livre et de pouvoir, le cas échéant, en tout cas si on prend des responsabilités dans le métier, avoir des rapports où on peut entendre le langage d'un actionnaire ou d'un directeur de gestion.
Alors, repartons peut-être un petit peu, puisque ce sont des thématiques essentielles que nous allons d'ailleurs un petit peu aborder si nous en avons le temps. Et j'aimerais plutôt revenir sur un petit peu sur votre parcours. Oui. Vous partez de 1991 à 1995 à New York. Vous prenez le grand large, vivre un petit peu aux États-Unis. Vous occupez donc à cette époque-là, vous êtes le poste de directeur du bureau du livre français à New York. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se cache sous le titre, qu'est-ce qu'on y fait à New York quand on est directeur du bureau du livre.
D'accord. Alors, là aussi, ce sont... Alors, ça s'est passé de la manière suivante. Je vous dis les choses cash parce que ça n'a pas de sens. Les incidences personnelles ont été très fortes dans ma trajectoire. Je suis donc éditeur chez Kalman Levy, comme on l'a vu, et Je tombe très amoureux d'une jeune femme qui est franco-américaine et qui vit à New York. Alors j'essaie par tous les moyens de la rejoindre. Il est évident que personne dans l'édition américaine n'a besoin d'un jeune éditeur français, personne. Donc je tape à plusieurs portes de l'édition américaine qui très gentiment me dit qu'elle n'a rien à faire de moi. Et puis, j'en parle à un ami qui s'appelait François Samuelson, qui avait créé ce bureau du livre français à New York. Je vous expliquerai ce qu'est l'organisme en question. Puis, était rentré à Paris et m'apprend que son successeur va quitter le bureau. Voilà. Et là, et me met en contact avec la directrice du livre à l'époque, qui était Evelyne Pisier, qui vient de décéder. Là, au moment où je vous parle, enfin, elle est décédée la semaine dernière. Et Evelyne Pisier, qui avait l'organisme de tutelle, puisqu'en tant que directrice du livre, c'est elle qui gérait à l'époque le bureau du livre français, m'a rencontré et a trouvé que j'avais un profil intéressant pour prendre la succession. Voilà. Alors, ce bureau, sa mission est la suivante. Il n'était d'aucune manière lié à l'ambassade ou au consulat, hein, puisque là aussi, on croit que le bureau du livre français, c'est soit un VSNA, attaché
Moi, je pensais que
culturel,
c'était
à...
la librairie, vous savez, qui
Ah oui, ou la
attache,
librairie, non.
voilà. Enfin, je
Alors,
me
c'est
suis
pas
dit, c'était
ça. Non,
lié à
non.
ça, non.
Alors, c'est un bureau qui avait été créé à l'époque, donc par Samuelson, avec l'aide de Jack Lang. À l'époque, la tutelle directe, c'était le ministère de la Culture, qui avait pour vocation d'être une plateforme locale visant à céder les droits de traduction des ouvrages français aux éditeurs américains. En gros, constat simple, l'Amérique traduit moins de 4% de ce qu'elle publie par an. Pour vous donner une idée, nous sommes entre 35 et 40% de traduction en France. Plutôt plus près de 30, 35 maintenant. Donc voilà, c'est 4%, et sur ces 4%, la France pesait 0,8%. Donc c'est à la fois beaucoup par rapport aux 4, et c'est à la fois peu, évidemment, quantitativement, en nombre de titres traduits. Les éditeurs français s'en plaignaient, et Samuelson a eu l'initiative de dire, bon, ben, je vais regrouper les éditeurs, je vais représenter tous ceux qui souhaitent être portés par le bureau du livre. Et c'était une sorte de joint venture, pour parler anglo-saxon, c'est-à-dire un rassemblement dans lequel vous aviez des fonds publics, structure mixte avec des fonds publics très largement représentés, puisque c'était plus de 80%, et puis les maisons d'édition adhérentes au bureau, qui pesaient à peu près 20%. Et à partir de là, c'était une antenne locale avec une, deux, trois, quatre personnes, ça a dépendu des moments, si vous voulez, et qui était au plus près du terrain, au contact des éditeurs américains, proposant la traduction des livres français et essayant là aussi de percer le blindage d'indifférence de ce marché américain à la production française. Et ce bureau avait plusieurs années, moi, quand j'y suis arrivé, Samuelson l'avait créé. Ce sont les structures françaises qui avaient changé. Ça n'était plus la tutelle immédiate du ministère de la Culture, c'était devenu celle de la direction du livre, et puis ensuite celle d'un organisme qui s'appelait France Édition. Que dirigeait un homme qui s'appelait Patrick Dubs sous la présidence d'un monsieur Foulon. Voilà. Et donc, quand j'ai rencontré Evelyne Pisier, elle m'a fait rencontrer donc Patrick Dubs et Bernard Foulon. Voilà, mon profil a semblé les intéresser et ils m'ont envoyé sur place à New York, où je suis resté plusieurs années à m'occuper de ça, c'est-à-dire développer les adhérents français de ce bureau. Donc il s'agissait en quelque sorte à la fois de prospecter les adhérents en France pour dire aux confrères, enfin c'était plus des confrères, moi j'étais sorti d'édition, mais j'avais pour interlocuteur les patrons de maison pour savoir s'ils adhéraient ou pas au bureau. Et j'avais ensuite pour interlocutrice, je dis trice parce que c'est un métier très féminisé dans l'édition, les patronnes de services de droits étrangers, dont j'étais. Comment dire, le prolongement local, l'ambassadeur local, voilà, avec des comptes à leur rendre. Donc ça c'est évidemment très passionnant parce que vous vous retrouvez en première ligne, vous pigez un tout petit peu comment fonctionne l'édition américaine, Vous prenez un grand bol d'air, puis accessoirement, et même principalement pour moi, ça m'a permis de rejoindre cette personne dont je vous parlais, qui est devenue mon épouse, dont j'ai maintenant divorcé, mais enfin avec laquelle j'ai eu deux beaux enfants. Voilà. Donc, c'était une motivation vraiment intime, personnelle, d'une histoire d'amour qu'il fallait rendre possible, comme elle travaillait, elle, à l'époque, elle avait sa boîte à New York, elle était franco-américaine, il n'y avait pas... Bon, ben, j'ai été... voilà, j'ai été égalitaire avant l'âge, je me suis dit, puisque la femme ne peut pas bouger, c'est à l'homme de bouger, voilà, donc je suis parti là-bas. Et il se trouve que ce faisant, ça m'a été très utile, parce que, un, c'était un moment où on a vraiment eu un marché difficile en France dans l'édition, c'était le moment guerre du Golfe et ses suites, si vous voulez, qui a été un trauma assez fort. Et moi, je me suis fait quand même la tête négociation, contrat, un vrai réseau aux États-Unis, la maîtrise d'une langue, l'apprentissage d'un métier qu'on se fabrique, parce que c'est vrai que évidemment, je dépendais de mes clients, mais mes clients étaient à plus de 10 000 km et que, grosso modo, vous faites quand même à votre manière et comme vous l'entendez. Et ça, c'est quand même très bon d'avoir une longe assez longue pour pouvoir vraiment jouer la partie que vous avez envie de jouer comme vous avez envie de la jouer.
Et alors, parmi vos contacts à New York, c'était plutôt business ou plutôt vous avez eu l'occasion de côtoyer des auteurs américains, des
écrivains américains ? Non, c'était vraiment l'édition américaine. Ouais, j'ai très peu vu d'auteurs. En revanche, j'ai noué des rapports amicaux avec des éditeurs, soit des gens de ma génération, soit des gens qui m'ont accueilli, je dois dire, avec une incroyable générosité. Bon, là aussi, c'est un truisme de le dire, mais ce caractère extraordinairement accessible et direct de la vie professionnelle américaine est un soulagement formidable quand on sort de cette petite cuisine française et parisienne. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de professionnel auquel vous n'avez accès. Ce qui est un truc inouï ici. Inouï, vous auriez 40-50 barrières. Là, je pouvais appeler... voilà, j'ai eu les patrons de Knopf, de Farastros, Angerud. Bon, des noms qui ne vous disent pas forcément quelque chose, mais... Tous ces types-là vous reçoivent, vous trouvent une bonne gueule, vous invitent à déjeuner. C'est quelque chose de très surprenant quoi, quand on vient de France. Oui, c'est-à-dire avec ce principe français de la subsidiarité, il est qui, quel titre a-t-il à me rencontrer, comment, pourquoi. Vraiment, on a des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus protégés ici contre le mélange que là-bas. Voilà. Donc ça a été évidemment une découverte. La deuxième chose qui m'a frappé dans la manière de travailler là-bas, c'est à quel point il y avait une dissociation de l'affect et du professionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouviez dire à des collaborateurs sur place, en faisant des bilans d'étapes, il y a ça, 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 ça qui ne me convient pas et sur lequel je te demande de faire des progrès, sans que ça altère la nature des rapports interpersonnels. Je n'ai jamais retrouvé ça en France, jamais. C'est-à-dire, peu ou prou, quelqu'un à qui vous dites ça en France sort de votre bureau et se dit « il ne m'aime pas ». Tout est incroyablement affectivisé. Bon, j'ai vraiment expérimenté à ce moment-là. C'est très intéressant. Alors peut-être qu'il y a des business en France dans lesquels on peut dire ça à des gens, mais en tout cas dans les métiers qui sont les nôtres, journalisme, édition, vous dites à des gens « il y a ça, ça, ça qui ne va pas, je te demande de corriger le tir ». Voilà, ils sortent convaincus que vous les détestez, alors que ce n'est pas une question d'affect. C'est juste que vous leur demandez de redresser la barre. Et donc voilà, ça m'a appris 1000 choses assez passionnantes.
Alors peut-être évoquons votre retour en France.
Oui.
Donc vous reprenez rapidement, après votre retour, les rênes de la maison d'édition Calmant Lévy, quelques années après votre retour.
Voilà.
Vous arrivez
tout
ensuite...
Non, tout de suite.
Tout de suite ?
Tout de suite, oui.
Dès votre retour.
Je suis rentré, j'étais en 92, 13, 14 à New York. Et en 15, je reviens comme directeur général. Alors, entre-temps, Calmant Lévy a muté. Cette petite maison indépendante que je vous décrivais a été rachetée par le groupe Hachette. Donc, si tu ne vas pas à Lagardère viendra à toi. Je me retrouve dans le giron Lagardère que j'avais quitté quand j'avais quitté Hachette Littérature pour Calman Levy, puis Calman Levy pour New York. Rentrant de New York, je reviens dans un Calman Levy hachettisé. Voilà. Mais avec toujours Jean-Étienne Cohen-Seat à la tête de Calman Levy, qui a la gentillesse, alors que j'étais parti faire le zozo à New York plusieurs années, de me tendre la main et de me prendre comme directeur général de la maison en 95. Puis, je crois en 97, dans mon souvenir, comme PDG, Cohen-Seat étant parti chez Hachette pour prendre un rôle de responsabilité à la direction d'Hachette Livre.
Et qu'est-ce qui change au fur et à mesure qu'on s'élève au sein d'une maison? Est-ce que on s'éloigne des livres pour se rapprocher de plus en plus de la paperasse? Pas
Alors,
forcément.
d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'élève? C'est-à-dire, est-ce que c'est une volonté absolue de contrôle, de pouvoir, de... Qu'est-ce qui frustre un éditeur jeune? Plusieurs choses. Un, il n'a pas la signature, c'est-à-dire il n'a pas la faculté de faire publier un livre auquel il tient. Il n'y a rien de plus frustrant quand on passe son temps à lire des choses, à lire des choses qui sont envoyées par la poste. Qu'on a un fatras de papier quand même impubliable. On est le seul pays où les gens confondent la liste de commission et le manuscrit. Et s'imaginent que parce qu'ils sont capables de mettre trois mots les uns après les autres, ça fait un livre. Alors, ça a un aspect positif qui est qu'on a 70 millions de Proust en Gésine. Et en tout cas, qui se représente que c'est un objectif d'écrire un livre. Donc, ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que le livre a encore une valeur symbolique forte. Mais il y a un aspect plus pénible pour ceux dont la profession est de recevoir tous ces livres parce que, bon, il y en a quand même très peu qui méritent d'être publiés. Donc, enfin, très peu. Ça fait quand même beaucoup de livres publiés à l'arrivée, mais très peu par rapport à ceux qui nous sont envoyés. Par conséquent, quand vous faites ce boulot-là, que vous écopez, vous écopez, vous écopez, puis que de temps en temps, vous tombez tout à coup, vous tombez sur ce que vous pensez être une pépite et que vous n'arrivez pas à en convaincre votre hiérarchie, c'est une frustration terrible. Donc, un jeune éditeur, il n'a pas la signature, il n'a pas la décision. Quand par hasard, il arrive ou par miracle, il arrive à caser un livre qu'il veut faire prendre, il n'a pas le choix de la date de publication, il n'a pas le choix de la couverture, il n'a pas le choix du prix de vente. Donc, au fond, quand vous êtes passionné par le métier et un petit peu convaincu que vous y avez du goût, ou en tout cas avec la volonté que votre goût s'imprime à une maison, vous n'avez de cesse que de remonter la chaîne pour essayer d'en contrôler les tenants et les aboutissants, en vous disant, je ne peux pas passer 25 heures à travailler sur un texte et laisser un type sous prétexte qu'il a trois barrettes de plus que moi au galon décider de me le foutre en l'air avec un titre pourri, une couverture qui n'a pas de sens, de me le sortir un mois où rien ne va se passer et de me le mettre à un prix de vente où je ne pourrai jamais le vendre. Donc, comment dire, ça pousse très vite en vous, la volonté d'eux. Après, les conditions vous permettent ou vous permettent pas, mais là aussi, je connais peu d'éditeurs complets qui ne soient frustrés à l'idée de ne pas avoir la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Voilà. Donc, peut-être qu'on refait toujours son histoire et qu'on la recompose et qu'on l'enjolive et qu'on l'embellit, etc. Moi, j'ai honnêtement pas le sentiment que tout ça a procédé d'une volonté de puissance. Ça a procédé d'une volonté de contrôle. Ça, oui, certainement. Donc, je plaide coupable sur l'aspect contrôle freak, mais pas sur l'aspect libido dominandi. C'est pas mon problème. Mon problème, et d'ailleurs, j'essaye de faire en sorte, depuis que je suis en situation d'avoir les rênes des maisons, de faire du collégial, de laisser des gens se déployer, de les aider à se déployer, enfin précisément parce que j'ai vu. Mais j'ai eu de la chance de ce point de vue, parce qu'encore une fois, les démarrages, Calman Levy, etc., Cohen-Seat, tout de suite, il a laissé des jeunes gens faire jusqu'au bout. Titre, couverture, etc. Donc, j'ai eu la chance de brûler les étapes avec quelqu'un qui m'a donné la faculté de faire beaucoup vite. Mais j'ai vu que même dans ma génération, je dis même dans ma génération parce que tout a tendance à être un peu plus difficile, hein, les années passant. Mais même dans ma génération, les types qui sont rentrés dans le métier en même temps que moi, je les ai pas tous vus avoir la faculté, la chance, l'opportunité de gérer autant de choses en même temps. Donc, voilà, alors votre question, c'était exactement qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui change quand on grimpe, si j'ose dire. Alors, plusieurs choses. J'ai plusieurs confrères qui, en effet, après avoir pris la direction d'une maison, sont devenus plus géomètres et moins saltimbanques, se sont mis à gérer moins de livres, à en suivre à titre personnel beaucoup moins, et se sont tournés davantage vers l'organisation de l'équipe, la vision, la gestion, la conquête, le débauchage d'auteurs, bref. Moi, je ne sais pas si c'est une impuissance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lâcher la corde éditoriale. Alors là aussi, ça dépend beaucoup des maisons, ça dépend beaucoup des groupes propriétaires de ces maisons. Il y a des groupes d'édition en France qui ont mis des gestionnaires à la tête des maisons. Il se trouve que j'ai la chance de travailler dans un groupe qui n'y a mis que des éditeurs. C'est-à-dire que dans ce groupe Hachette, dont dépend Grasset aujourd'hui, Fayard, Lattès, Stock, Kalman-Lévy, 5 maisons d'édition de littérature générale. Kalman-Lévy qui vient de se marier à Kéro, enfin bon bref, ça fait en gros 5 maisons. Ce sont 5 éditeurs. Et tout le monde est sorti, ce sont des gens de lettres, pas des gens de chiffres qui ont piloté les maisons. Et donc ça, je crois qu'on a ceci en commun pour les éditeurs, patrons de maisons, les publishers qui ont été éditeurs, de continuer à être très éditeurs. C'est-à-dire, on a encore le nez dedans, on passe encore les nuits et les week-ends dans la copie, on a encore des auteurs qu'on suit à titre personnel. Moi, je dois porter quoi, une vingtaine, entre 20 et 25 titres par an, en plus de la casquette gestion de maison, organisation de l'ensemble, etc. Alors, vous me direz, mais est-ce qu'il ne serait pas plus malin de déléguer, de draguer, d'aller chercher du chiffre de... Certainement si. C'est-à-dire, je pense en effet que ma façon de procéder, mon incapacité à lâcher cet aspect-là du job, limite... alors non, pour être exact, mais on y viendra peut-être, il y a un moment où pendant 5 ans, j'ai été patron de 2 maisons.
Vous étiez également chez Fayard.
Oui, voilà. Mais enfin, je ne sais pas, on n'en est pas là encore, mais enfin, je ne sais pas si vous voulez procéder chronologiquement, mais ça, bon, ça a été un moment. Bon, enfin, voilà. Non, donc, oui, mais là, je ne suis même pas rentré chez Grasset, là où on en est. Parce que, donc, j'étais chez Kalman, disons, je suis encore chez Kalman-Lévy. J'y suis, comme je vous l'ai dit, directeur général, puis PDG. Ça, c'est donc des années 2000 des années 95-2000. Voilà. En 2000, Jean-Claude Fasquelle, qui était le PDG de Grasset,
historique,
voilà, me fait proposer par le patron du groupe Livre Hachette de l'époque, qui s'appelait Jean-Louis Lisimacchio, la reprise de Grasset. Chose qui m'a stupéfaite. C'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas bien compris, puisque c'est quelqu'un qui était Jean-Claude Fasquelle, d'abord un grand monsieur de l'édition, deuxièmement un homme très observateur, très prudent, enfin joueur et prudent, enfin qui en tout cas pour chacun des postes d'éditeur testait et regardait les gens pendant très longtemps. L'idée qu'il me propose de me passer le relais sur une maison qui était sa vie sans m'avoir testé, connu, me paraissait tout à fait invraisemblable, quoi. Voilà, donc j'ai pas bien compris. Je l'ai donc rencontré. En plus, Grasset était très loin de moi, pour tout dire. J'étais très bien chez Kalman. C'était une maison dont l'histoire m'allait bien. C'était fondée par une famille juive, arianisée pendant la guerre. Récupéré par la famille juive d'origine après la guerre, ayant publié Koestler, Raymond Aron, ayant des collections comme Liberté de l'esprit, Diaspora, bref, un passé de non-fiction magnifique, magnifique. Un passé de littérature étrangère magnifique, un passé de littérature française magnifique au 19e, un peu plus fragile dans la période considérée. Mais bref, et Grasset me paraissait loin de mes bases, maison très en vue, que je percevais comme très politique, très parisienne, très indexée sur la politique des prix littéraires de l'automne, dont j'ignorais tout. Ça me paraissait un saut difficile, et en plus j'avais des amis qui me semblaient être d'une génération plus apte à prendre le relais, qui était précisément Jean-Paul Enthoven, que je vous avais mentionné tout à l'heure, qui était parti de chez Hachette Littérature en me trouvant un job, et qui était éditeur ici, et que je voyais bien prendre le relais, ou quelqu'un de sa génération, si vous voulez. Donc, il y avait déjà, travaillant ici, Jean-Paul Enthoven, il y avait Bernard-Henri Lévy, enfin, je me disais, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ils n'ont pas besoin d'un type qui a 10 à 15 ans de moins. Bon, donc ça a été un choix étrange de la part de Jean-Claude Fasquelle de littéralement sauter 2 générations, quoi. C'est-à-dire non pas passer la main à la génération qui suivait, mais encore à celle d'après. Il s'en est expliqué avec moi, on s'est rencontrés, il m'a dit, toi tu ne me connais pas, mais moi je te connais, je te suis à la trace, je sais ce que les auteurs disent de toi, on a à la fois des auteurs et des amis en commun, et je me suis aperçu que Jean-Claude m'avait pisté en quelque sorte et me testait à distance. Il y avait eu des auteurs, un facteur commun, il y avait eu des coups que j'avais réussi contre la maison Grasset à l'époque, qu'il avait trouvé bien joué quand j'étais chez Calman. Bref, il avait cette espèce d'œil madré comme ça, où il avait jaugé la concurrence et où il se disait, le type qui fait ça en face, il doit avoir quelque chose. Voilà. Bon. Alors, toujours est-il que cette affaire-là m'a évidemment tenté beaucoup. C'était une remise en question, c'était passionnant. Et j'ai plongé, donc, Grasset, arrivé chez Grasset en 2000. Et là, à nouveau, forte remise en cause. J'ai 40 ans, je prends les rênes d'une des maisons les plus visibles de Paris, même si ça n'est pas la plus puissante en termes financiers ou en termes de chiffre d'affaires. Symboliquement, c'est une des maisons fortes. Tout le monde parle de Gallimard, Grasset, Le Seuil. Bref, ça rentre dans la cour des grands, quoi. Voilà. Alors, entrer dans la cour des grands à 40 ans, en prenant le relais des mains d'un monstre sacré du métier, c'est on se pose des questions. Voilà, on regarde. C'est pas si facile à faire. Donc,
La bille n'est pas trop grand, c'est ça?
hein? Est-ce que l'habit est pas trop grand? Est-ce qu'on saura faire? Est-ce que et puis est-ce que ça simplement est-ce que ça nous ressemble? Est-ce qu'on peut s'y retrouver? Est-ce que voilà. Donc ça a été une acclimatation progressive, je crois, de la maison à moi, de moi à la maison. J'ai pris mon plaisir très vite, je dois reconnaître. Et Jean-Claude, qui était resté, on avait fait une structure intermédiaire, où je ne suis pas devenu PDG tout de suite, on a fait une structure en commandite, enfin c'est-à-dire pas en commandite, ou avec un directoire et un conseil de surveillance. Donc Jean-Claude a pris la présidence du conseil de surveillance, Jean-Claude Fasquelle, donc, et moi la présidence du directoire. Donc j'étais en quelque sorte le acting président ou directeur, mais il y avait quelqu'un au-dessus qui, voilà. Et ça, on a tourné avec ce système pendant quelques années. Et puis Jean-Claude m'a dit, écoute, plus besoin de moi, ça tourne tout seul. Là, Hachette a refait la structure juridique, on est repassé un système et ils m'ont donné m'ont confié la présidence de Grasset. Et donc ça, c'est 9 ans, 2000-2009. Et puis en 2009, au terme là aussi de péripéties compliquées, il m'est proposé la coprésidence de Grasset et de Fayard. Chose qui est très inédite dans l'édition, c'est très très rare d'avoir 2 maisons. Et en général, quand on en a 2, on en a une grosse, une petite, ou on a 2 marques, mais c'est en fait une maison bifide ou quelque chose comme ça. Là, c'était pas facile,
Différent.
très différent. C'est-à-dire, c'est pour ceux qui, voilà, pour les amateurs de Lucky Luke, c'est Léo Hara et Léo Timmins avec un seul shérif à la tête des 2 familles qui s'écharpent. Donc ça, c'est un truc pas commode. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? La proposition de reprendre Fayard m'avait été faite, ou plutôt, j'avais été approché par le patron de Hachette Livre, qui n'était plus Jean-Louis Lisimachio, mais qui est un monsieur qui s'appelle Arnaud Nourry. Bon, il m'approche et il me demande si Fayard peut m'intéresser. À l'époque, c'est Claude Durand qui est à la tête de Fayard. Et Je pense que les conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire à la fois, moi, j'ai du mal à l'idée de m'éloigner de Grasset. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment de plan B tout à fait pensé pour l'après Grasset, si vous voulez, enfin l'après moi chez Grasset. Et en revanche, je ne suis pas complètement convaincu non plus que Claude Durand, à ce moment-là, ait tout à fait envie de partir. Donc je me dis, ça n'a pas beaucoup de sens, je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre, aller dans un lieu où je ne suis pas attendu et pas désiré, où un type est en place, tout en quittant un lieu que j'aime, où j'ai pris mes marques, et en laissant en déshérence des auteurs auxquels je tiens. Donc, ça ne marche pas, quoi. Le truc ne marche pas, on en discute, mon interlocuteur et patron en convient et pense qu'en effet, ça ne marche pas comme ça. Et puis, c'est quand, en 2008, Claude Durand lui-même vient prévenir Arnaud, donc le patron de Fayard, prévient Arnaud Nourry de son désir de se défaire de la présidence de Fayard, que là, Nourry me dit, bon, ben maintenant, il faut y aller. Il faut y aller parce que l'après Durand chez Fayard, c'est un gros truc à gérer. Fayard est plus gros en chiffre d'affaires que Grasset, hein. Et donc, voilà, quand vous êtes patron d'une maison dans un groupe, on vous dit, maintenant, c'est là qu'il y a le feu, il faut y aller. Bon. Et je suis toujours un peu réticent, c'est-à-dire je ne comprends toujours pas très bien ce quid de Grasset. Et donc, au fur et à mesure des conversations, j'en ai beaucoup parlé aussi avec Jean-Claude Fasquelle, qui n'était pas plus patron de Grasset, mais qui restait ami et mentor. Il apparaît que peut-être une des bonnes solutions serait une présidence commune, le temps de comprendre si ces deux maisons doivent ou pas être rapprochées. La problématique était la suivante. Hachette Livre était le troisième groupe mondial en littérature générale, mais dans son bassin d'origine, troisième groupe mondial, hein, je dis bien, mais dans son bassin d'origine, la France avait des petites maisons, une pulvérulence de petites maisons indépendantes très fortes. Du point de vue de leur idiosyncrasie et de leur marque, mais assez peu puissante en termes financiers. Donc, voilà un colosse avec des pieds d'argile dans son propre pays, dont chacune des maisons pèse moins lourd que les grandes maisons indépendantes de l'époque ou les filiales de groupes qui, eux, pèsent moins lourd que Hachette au niveau international. Maison indépendante à l'époque, Albin Michel par exemple, Flammarion qui à l'époque était indépendant, ou filiales comme Lafond du groupe Editis, lequel Editis pèse beaucoup moins lourd qu'Hachette au niveau mondial, mais avec un Lafond qui en France est beaucoup plus lourd que ne le sont chacune des maisons d'Hachette. Donc évidemment qu'il y avait une réflexion qui était, est-ce qu'il faut réfléchir à des passerelles pour atteindre une masse critique entre ces deux, les deux plus grosses maisons de Hachette Livre à l'époque. C'était le cas à l'époque, ça n'est plus parce que entre temps la thèse a publié et Dan Brown et Fifty Shades of Grey et tellement de best-sellers que le chiffre d'affaires de la thèse est devenu très important, en tout cas certaines années, et de toute façon voilà, la thèse s'est beaucoup musclée, mais enfin à l'époque c'était donc Fayard, Grasset. Et l'idée, c'était, bon, bah, au fond, il y a une maison très littéraire, une maison très non-fiction, il y a peut-être des mariages intéressants à faire. Et bon, donc, il me donne une mission qui est de dire, tu vas piloter le truc pendant un ou deux ans, les deux maisons, réfléchir à d'éventuels... Bon, est-ce qu'il faut les fusionner? Est-ce qu'il faut les rapprocher? Est-ce qu'il faut les développer séparément? À toi, il faut prendre le relais chez Fayard, deux, il faut redresser Fayard, qui était un peu fragile, et trois, il faut réfléchir à l'avenir. Voilà. Donc ça, ça a été le cas pendant 5 ans, en réalité, c'est-à-dire de 99 à 2000... attends, je dis des bêtises, non, de 2000... De 2009 à 2014.
Jusqu'à l'arrivée de Sophie de Closet.
Voilà, voilà. Alors 2009-2014... 2009-2013, oui, c'est ça, 2009 à fin 2013. Alors ça, 5 ans dans cet exercice de schizophrénie. Alors là, vous me disiez, qu'est-ce que ça change de piloter par rapport à... Là, mon obsession de rester proche du texte et de la copie, c'était plus très possible. C'est-à-dire, c'était une vie de fou, c'est deux maisons, 50 personnes d'un côté, une quarantaine de l'autre... 350 titres d'un côté, 150 de l'autre, matin, après-midi, puis une journée, La skise totale, quoi, complète. Et alors ça m'a tout coûté, si j'ose dire. La santé, la vie perso, j'ai divorcé, tout a explosé là. Sauf le boulot où j'ai vraiment voilà, travaillé comme un fou. Et je crois qu'on a fait finalement un boulot qui n'était pas mauvais. C'est-à-dire, on s'est bien entendu avec Claude Durand, il m'a passé le relais chez Fayard, tout en restant conseiller, en faisant des livres là, etc. Enfin, il n'y a pas eu la guérilla que tout le monde pressentait, anticipait, que tout le monde m'avait promise. On a, je crois, assaini assez bien la situation. Manuel Carcassonne, ici, chez Grasset, dont j'avais fait mon bras droit comme directeur général, m'a aidé formidablement à gérer Grasset, avant que lui-même ne soit appelé, quelques années plus tard, à reprendre Stock, après le décès de Jean-Marc Roberts, qui est mort des suites d'un cancer chez Stock. Bon, de sorte que là, là oui, ça a été des années, beaucoup de puzzles, de construction, de réflexion, de remise en route. Enfin, là, j'avais des dossiers tels que c'était plus difficile de gérer 30 livres par an. Bon, période extraordinairement intéressante, même si harassante et schizophrène, alors très schizophrène, c'est-à-dire là je me trouve au carrefour de deux maisons qui ont des traditions différentes, un historique de lutte au couteau, c'est-à-dire c'était des maisons il y a des années qui se faisaient des procès, Durand et Fasquel, deux papés, deux costauds de l'édition qui se cognaient dessus. Donc je vous dis, c'est les O'Hara et les O'Timmins, quoi. Fallait y aller avec les grandes oreilles et le gros pif et essayer de tourner entre les deux. Ça a été épuisant, passionnant. Ça m'a obligé à penser contre moi-même beaucoup, puisque j'avais une vision, ouf, pour aller vite si vous voulez. Fayard avait de Grasset l'image d'une maison parisianiste, atlantiste, sioniste et superficiel. Bon, voilà. Et Grasset avait de Fayard l'image d'une maison tour à tour, parce qu'il y avait les deux aspects cohabitaient, tour à tour altermondialiste, anti-européenne, souverainiste. Très opposé, voilà, c'est pour vous dire, j'étais vraiment dans une skise, mais même d'auteur, hein, c'est-à-dire j'avais d'un côté Chevènement, de l'autre côté BHL, d'un côté Péan, de l'autre côté BHL, d'un côté... Bon. Ouais, donc j'étais sur le pas de tir d'où partaient les scuds qui tombaient dans la plaine de la Bécane le soir quand je revenais chez Grasset. Donc c'est un drôle de truc, c'est une spécialisation des hémisphères du cerveau. C'est une obligation absolue de cloisonnement, puisque j'ai tenu à faire la chose de telle sorte que, comme il y avait deux maisons, que j'étais le seul en facteur commun, et que très vite nous sommes parvenus, moi sur le terrain et mon interlocuteur et patron Arnaud Nourry, à la conviction que les deux maisons devaient se développer indépendamment l'une de l'autre, et qu'il y aurait beaucoup de casse à les rapprocher, en fait. Mais là aussi, vous voyez à quel point ça suppose d'intelligence et de doigté de la part d'un actionnaire de ne pas raisonner en termes de « on fusionne, on met tout sous un même toit, une même boutique ». Enfin, ouais, c'est, je veux dire, la logique de groupe, c'est « allez, ok, les services communs en commun, on va gagner un, vous allez me fusionner tout ça, vous allez ouvrir le corps, couper ici un bout de poumon, là un bout de cœur, rassembler tout ça, surtout les doublons de job où on virait la moitié des gens, etc. Bon, » il y aurait eu une approche gestionnaire de cette affaire, on aurait fait des dégâts mais colossaux en termes intellectuels, et on avait une maison centenaire et une maison 159 qu'on foutait sur la paille, mais enfin on les aurait abîmés considérablement, comme je pense d'ailleurs qu'on a abîmé Plomb de l'autre côté, hein, du côté du groupe Editis. Si vous regardez l'histoire d'une maison comme Plomb et que vous voyez le petit département que c'est devenu, c'est pathétique, hein. Enfin, c'est triste. Donc voilà, là, je trouve que ça a été extraordinairement... ça a été géré avec un doigté, une habileté, une psychologie, une connaissance intime du métier par le patron d'Hachette. Et je ne parle pas des institutions en tant que telles. Le groupe, en tant que groupe, ne m'intéresse pas beaucoup. C'est toujours pareil, ce sont des individus. Et là, en l'espèce, j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur qui a eu une intelligence d'approche de cette affaire-là formidable, ou en tout cas, L'intelligence, j'en sais rien, on voit toujours midi à sa porte. Moi, en tout cas, il a suivi mes intuitions, il était d'accord avec, voilà. Donc, c'est très bien. Donc ça, on est parvenu vite à la conclusion qu'il fallait développer les deux boutiques séparément, ce qui a été fait. Et j'ai pu... Alors, après, complications à nouveau de vie personnelle qui expliquent beaucoup de choses, comme toujours, la mère de mes enfants dont j'avais divorcé part aux États-Unis et me laisse mes enfants. Bon, et je me retrouve avec deux jeunes adolescents à plein temps. Et là, je me dis, non, alors deux maisons d'édition et deux ados, seuls, ça, là, c'est plus gérable. Et là, j'ai crié pitié et demandé au patron du groupe Livre Hachette de me permettre de me replier sur Grasset. Il a estimé que le job avait été fait sur Fayard et il a nommé une jeune éditrice de très, très grand talent qui est en train de faire prospérer Fayard après que nous avons travaillé ensemble pendant ces 5 ans-là. Voilà. Sophie Closet, absolument.